Comment une simple réunion de famille a-t-elle pu déclencher l'une des plus grandes crises géopolitiques et migrations de masse de l'Antiquité ?
C'est vrai que vu comme ça, ça paraît assez fou.
Ben oui, parce qu'en fait, l'imaginaire collectif a souvent tendance à s'attendre à des larmes sur un quai de gare, une boucle narrative qui se ferme joliment.
Ouais, un retour à la normale réconfortant, quoi.
C'est ça. On pleure, on s'embrasse et puis l'histoire s'arrête là. Mais ici, bah, le tableau explose complètement. On pense ouvrir la porte sur des retrouvailles intimes et on se prend de plein fouet un manuel de survie étatique.
Une refonte totale de l'identité d'un peuple même.
Exactement. Et une gestion de crise absolue. C'est pas du tout le petit drame familial attendu.
Et en fait, il est le propre des grands tournants historiques. Ils avancent très souvent masqués sous les traits d'un drame personnel. Une famille qui se déplace pour survivre, ça devient soudainement le point de bascule de toute une région du monde.
Et c'est précisément ce basculement que nous avons pour mission de décortiquer aujourd'hui dans cette exploration en profondeur. On va se concentrer sur les chapitres 46 et 47 du livre de la Genèse.
Tout à fait.
Et pour nous guider, on s'appuie sur l'analyse détaillée du docteur Kenneth Matthews, plus particulièrement sa 24e session d'études. Le décor est posé. C'est la rencontre monumentale entre le patriarche Jacob et son fils Joseph.
Ce fameux fils que tout le monde croyait mort depuis des décennies d'ailleurs.
Ouais, le choc total. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce qu'on sent bien dès les premières lignes que cette histoire dépasse largement le cadre d'un simple dîner de famille, tu vois.
Oh oui, clairement.
Il y a des dynamiques de pouvoir, de la providence, de l'économie à très grande échelle.
En fait, pour bien aborder ce texte, il faut d'abord comprendre sa mécanique littéraire. D'après notre source, nous assistons ici à une collision entre deux immenses arcs narratifs.
Deux arcs qui se rentrent dedans.
C'est ça. D'un côté, on a l'histoire de Joseph, qui a commencé au chapitre 37 et qui culmine avec ses retrouvailles. Et de l'autre, l'histoire de son père, Jacob, qui amorce ici sa très longue conclusion, celle qui nous mènera jusqu'au chapitre 50.
D'accord.
Et le docteur Matthews souligne d'ailleurs la structure très spécifique de la Genèse, qui est marquée par un mot hébreu récurrent, le mot « toledot ».
Ah oui, ce fameux mot qui revient comme un métronome pour marquer les époques dans le texte.
Voilà, c'est exactement ça. Ça se traduit généralement par « les générations de » ou « l'histoire de ». Et c'est pas qu'une simple transition de chapitre, hein.
C'est plus profond que ça.
Ouais, c'est un vrai changement de focalisation. C'est comme une caméra qui changerait soudainement de protagoniste au milieu d'un film.
Ah, j'aime bien cette image.
L'histoire de Jacob, en fait, elle avait commencé au chapitre 25, puis elle s'est mise en veilleuse au profit de l'ascension fulgurante de Joseph en Égypte.
Ouais, Joseph prenait toute la place.
Et ici, avec la fusion de ces récits, eh bien Jacob sort de l'ombre pour redevenir le centre de gravité spirituelle du texte.
Mais avant même de parler de cette fusion et de l'arrivée en Égypte, je pense qu'il faut s'arrêter sur le point de départ de ce voyage. Parce que Jacob, à ce moment-là, il est en Canaan.
Ouais, la terre promise.
C'est la terre promise, voilà. Sur le papier, c'est l'endroit où il est censé rester coûte que coûte, puisque c'est l'héritage divin de sa famille.
C'est son ancrage.
Mais là, il y a une famine mondiale qui s'abat sur la région et qui le force à envisager l'impensable. Faire ses bagages et quitter le pays. Sauf qu'on sent bien, quand on lit le texte, qu'être poussé par la faim, ça ne lui suffit pas pour franchir la frontière.
Non, c'est pas si simple.
Il y a un blocage psychologique énorme. Il s'arrête à Beersheba.
Et Beersheba, c'est pas juste une étape sur une carte. C'est la frontière sud-extrême de Canaan.
Le bout du monde pour lui.
En gros, au-delà, c'est le désert aride, puis l'Égypte. En s'arrêtant là, Jacob est littéralement sur le pas de la terre promise. Et il hésite.
Il bloque.
Il offre des sacrifices au dieu de son père, Isaac. Il cherche en fait une autorisation claire avant d'abandonner l'héritage foncier et spirituel de sa famille.
Tu sais, en lisant cette scène, je me suis revu dans ces moments de paralysie totale qui précèdent une décision irréversible. On a tout vendu, on est à l'aéroport avec un billet aller simple pour un pays inconnu et on se demande si on n'est pas en train de commettre l'erreur du siècle.
C'est exactement cette angoisse-là.
Jacob a besoin d'un feu vert. Et cette validation, elle arrive sous la forme d'une vision nocturne. Dieu l'appelle en disant « Jacob, Jacob ». Et sa réponse est de deux mots. « Me voici ».
Ouais.
Et là, les notes du docteur Matthews mettent en lumière un écho littéraire qui donne vraiment des frissons. Ce « me voici », c'est mot pour mot ce qu'Abraham a répondu en Genèse 22, la seconde juste avant de devoir sacrifier son fils Isaac. Ce n'est donc pas un simple « oui, je t'écoute », quoi.
Ah non, pas du tout. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est la formule consacrée de la soumission absolue face à un inconnu terrifiant.
Une soumission totale.
Et le contexte justifie vraiment cette terreur. L'Égypte, dans la mémoire familiale de Jacob, c'est un terrain miné.
Comment ça ?
Son propre père, Isaac, avait reçu l'ordre explicite de Dieu de ne surtout pas descendre en Égypte lors d'une précédente famine.
Ah oui, c'est vrai.
Donc Jacob s'apprête à faire exactement ce qui avait été interdit à la génération précédente. D'où la nécessité de ce que l'auteur appelle une théologie de la présence.
C'est-à-dire l'assurance qu'il ne part pas seul.
Ouais, et le texte déploie cette idée avec une grande précision. Dieu lui dit d'abord « ne crains pas ». C'est un commandement apaisant fondamental.
Le truc dont il avait désespérément besoin.
Ensuite, pour contrer l'angoisse de l'exil, Dieu lui fait trois promesses hyper structurantes. Premièrement, il ferait de lui une grande nation là-bas, en Égypte.
Ok.
Deuxièmement, il descendra physiquement avec lui, ce qui garantit que sa présence n'est pas confinée à la géographie de Canaan.
Donc Dieu voyage avec eux.
Voilà. Et troisièmement, il promet de le faire remonter. Et avec un détail d'une intimité incroyable, Dieu lui assure que c'est Joseph, ce fils tant pleuré, qui lui fermera les yeux sur son lit de mort.
Waouh ! L'apaisement total là. Le pire est passé, le fils est retrouvé et le départ est sécurisé.
C'est le feu vert ultime.
Du coup, la caravane se met en route et c'est ici que le récit nous plonge dans un immense recensement généalogique. Le texte nous liste exactement qui participe à cette migration. Et en analysant les sources, j'ai passé un bon moment à essayer de résoudre une espèce d'anomalie mathématique.
Ah oui, les fameux chiffres de la Genèse.
Ben oui, parce que d'un côté, le texte affirme noir sur blanc que la famille compte 70 personnes, mais si on regarde de plus près les calculs intermédiaires donnés juste avant, on tombe sur le chiffre de 66. J'avoue que sur le coup, j'ai cru à une erreur de copie antique. Comment on explique cet écart, en fait ?
Alors, c'est une question pré-classique sur laquelle se penchent les spécialistes, et notre source l'aborde en détail. La mécanique du calcul, elle dépend vraiment de qui l'on compte comme faisant physiquement le voyage depuis Canaan.
D'accord.
Si l'on part de la totalité de la maison de Jacob, on a bien 70 personnes. Mais de ce groupe initial, il faut déduire Er et Onan, deux fils de Juda, qui sont décédés plus tôt en Canaan.
Donc on tombe à 68.
Exactement. Et ensuite, il faut retirer ceux qui sont déjà sur place en Égypte. Joseph, évidemment, et ses deux fils, Manassé et Éphraïm, qui sont nés sur le sol égyptien.
Ah, je vois.
En soustrayant ces trois figures, on obtient très exactement 66 personnes dans la caravane.
Ok, le mystère comptable est résolu. Mais au-delà de ce calcul, pourquoi l'auteur s'acharne-t-il à nous donner ce chiffre total de 70 ? S'il ne s'agissait que d'un registre d'état civil, ça serait purement anecdotique. Mais dans ce type de littérature antique, les nombres ont rarement une fonction juste statistique, non ?
Ouais, tu touches du doigt la dimension symbolique du texte. Le chiffre 70, il résonne profondément avec un autre passage de la Genèse, le chapitre 10, que l'on appelle souvent la table des nations.
D'accord, et que dit ce chapitre 10 ?
Dans ce chapitre, le monde entier après le déluge est divisé en exactement 70 nations. Donc en listant 70 membres dans la famille de Jacob, entrant en Égypte, le texte dresse un parallèle littéraire saisissant.
C'est un miroir.
Complètement. La famille d'Israël est présentée comme un microcosme de l'humanité entière, une sorte de nouveau commencement.
Comme si le destin du monde entier allait se jouer à travers l'évolution de cette famille très spécifique.
C'est tout à fait ça.
D'ailleurs, la dynamique interne de cette famille est en pleine mutation pendant ce voyage. Jacob envoie Juda en éclaireur pour préparer l'arrivée dans la région de Goshen. Mais pourquoi Juda ? Ce n'est pas le fils aîné. Ruben est toujours là. Pourquoi confier toute la logistique diplomatique à un cadet ?
Le docteur Matthews est très clair sur ce point dans son analyse. C'est un indice narratif majeur sur la redistribution du pouvoir au sein de la famille. Ruben, l'aîné, il a perdu son statut par ses fautes passées.
Il a été mis sur la touche.
Voilà. Juda, en revanche, s'est illustré un peu plus tôt dans l'histoire en offrant sa propre vie pour sauver son jeune frère Benjamin.
C'est un acte fondateur pour lui ?
Oui, et le fait qu'il soit désigné comme l'avant-garde vers Goshen, ça annonce son rôle futur de leader incontesté. C'est de s'aligner, la tribu de Juda, que sortira plus tard la dynastie royale, celle du roi David.
Ah, on prépare déjà le terrain pour les siècles suivants.
Exactement. Et comme le souligne la grille d'analyse du docteur Matthews, cette lignée mène ultimement au Christ dans la tradition chrétienne. C'est vraiment la mise en place d'une architecture dynastique à long terme.
Donc, la fondation est posée, la famille arrive enfin en Égypte, et là se pose un problème diplomatique assez épineux. Comment s'installer au cœur d'une superpuissance sans se faire broyer et assimiler culturellement ?
C'est le grand défi de l'immigration.
Joseph, qui est quand même le vice-roi, convoque ses frères pour les préparer à leur audience avec Pharaon. Il leur donne une consigne très spécifique : dites-lui que vous êtes des bergers, et ce, depuis votre enfance.
Ouais.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et en lisant ça, j'ai eu un vrai moment d'incompréhension. Parce que le texte prend la peine de préciser, juste après, que, je cite, « tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens ».
C'est vrai que c'est paradoxal.
Mais pourquoi Joseph ordonne-t-il à sa famille de brandir le métier le plus détesté par le pays hôte ? Se saborder soi-même devant le dirigeant absolu de l'Empire, ça ressemble à un suicide politique total, non ?
Vu de l'extérieur, ça semble complètement irrationnel, c'est sûr. Mais d'un point de vue sociologique, c'est une manœuvre d'une intelligence redoutable de la part de Joseph. Il faut comprendre pourquoi les Égyptiens détestaient les bergers.
J'avoue que ça m'échappe.
En fait, l'Égypte antique est une civilisation agraire très sophistiquée, extrêmement sédentarisée autour des crues du Nil. À l'inverse, les bergers nomades ou semi-nomades qui viennent d'Asie représentent à leurs yeux le chaos, l'instabilité et franchement un mode de vie perçu comme inférieur.
Un vrai choc culturel.
Complètement. Si les frères de Joseph s'étaient présentés comme des marchands ou des administrateurs raffinés, Pharaon les aurait très probablement intégrés à la cour ou dispersés dans la haute société égyptienne.
Ce qui aurait totalement dilué leur culture en, allez, une ou deux générations maximum.
Précisément. Joseph utilise ce préjugé culturel, ce tabou égyptien, pour forcer une ségrégation. En déclarant qu'ils sont des bergers indécrottables, il s'assure que les Égyptiens ne voudront jamais vivre près d'eux.
C'est du génie stratégique.
Et ça permet à Joseph de justifier leur installation dans la terre de Goshen. Goshen, c'est une région périphérique, isolée géographiquement, idéale pour le pâturage. Cette mise à l'écart, elle va empêcher les mariages mixtes, freiner toute assimilation culturelle et surtout créer une bulle étanche contre la religion égyptienne.
Ce tabou est le bouclier qui va préserver l'identité hébraïque. C'est brillant. Assumer la honte pour garantir la survie identitaire.
C'est exactement ça.
Et cette stratégie de mise à l'écart, elle nous conduit directement au sommet diplomatique, la rencontre entre Jacob et Pharaon. Visuellement, le contraste est saisissant, je trouve.
Ah oui, c'est une scène incroyable.
D'un côté, on a le souverain le plus puissant de son époque, considéré par son peuple comme un dieu vivant. Et de l'autre, Jacob, un éleveur étranger de 130 ans, usé, un réfugié climatique en fait. Et Jacob a cette phrase étonnante, il affirme au roi que les années de son pèlerinage ont été peu nombreuses et mauvaises par rapport à ses ancêtres.
C'est vrai. Abraham, par exemple, avait vécu 175 ans. Jacob se sent déjà sur la fin.
Pourtant, malgré ce constat d'usure et de faiblesse apparente, c'est Jacob qui prend l'ascendant dans la discussion. C'est comme si un petit agriculteur fatigué entrait dans le bureau ovale du chef de l'Empire et commençait à dicter la tonalité morale de l'échange.
La mécanique de cette scène repose entièrement sur l'inversion des statuts. Le texte insiste sur un geste bien précis. Jacob bénit Pharaon. Et non pas une, mais deux fois, au verset 7 et 10.
Et c'est important de le préciser, j'imagine.
Crucial dans les conventions de l'Antiquité, et c'est une règle absolue dans la littérature biblique, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Jamais l'inverse.
Donc, le pouvoir spirituel prend ouvertement le pas sur le pouvoir temporel et absolu de Pharaon. Pharaon possède le blé, l'armée, le territoire, mais c'est le réfugié sans terre qui distribue la grâce.
Et le docteur Matthews rappelle dans son analyse que cet acte n'est pas juste une question de préhension pour faire joli. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est la matérialisation d'une promesse très ancienne.
Laquelle ?
Dieu avait dit à Abraham que par sa postérité, toutes les nations de la terre seraient bénies. Ici, la nation par excellence, la superpuissance mondiale de l'époque, qui paradoxalement deviendra leur bourreau quelques siècles plus tard, reçoit littéralement cette bénédiction à travers le vieux patriarche.
C'est très fort. Cette diplomatie spirituelle, elle se passe dans les parets. Mais sur le terrain, la réalité est nettement plus sombre. La famine est féroce. Et le récit détaille avec une précision quasi clinique l'effondrement économique total de la région sous l'administration de Joseph.
Un effondrement en plusieurs phases, oui.
En trois actes implacables. Pour être précis, premier acte, l'argent. Les populations achètent du grain jusqu'à ce que tout l'argent de Canaan et d'Égypte soit asséché et transféré directement dans le trésor public de Pharaon.
Premier niveau de dépossession.
Deuxième acte, on passe à l'économie de troc. N'ayant plus de monnaie, les gens échangent leur bétail et leurs troupeaux contre de la nourriture.
Ils perdent leurs moyens de subsistance autonome.
Dernier acte, c'est le stade terminal de la misère. Les gens viennent voir Joseph et n'ont plus rien à offrir que leur terre et leur propre corps. Ils cèdent la propriété de leurs champs et deviennent des serfs de l'État pour obtenir de simples semences.
C'est une nationalisation totale.
Et je dois dire que lorsqu'on lit cette section avec des yeux contemporains, on ressent un vrai malaise. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Joseph ressemble à un technocrate impitoyable appliquant la stratégie du choc. Il profite d'un désastre écologique pour nationaliser l'intégralité du pays, monopoliser les richesses et instaurer un servage de masse. Est-ce qu'on n'est pas face à un système profondément oppressif, là ?
Cela soulève une question importante. Et c'est vrai que la lecture moderne nous pousse naturellement vers cette conclusion. L'idée de voir une population entière céder sa liberté et ses terres à un État hypercentralisé provoque un rejet instinctif aujourd'hui.
C'est clair.
Cependant, l'analyse du Dr Matthews nécessite de se replonger dans les mécanismes réels des économies agraires antiques. D'après lui, il ne s'agit pas d'un enrichissement personnel cynique de Joseph, mais d'une tentative désespérée de sauvetage systémique.
Mais pourquoi avoir besoin de posséder les gens et les terres ? Pourquoi ne pas simplement leur donner les semences gratuitement pour qu'ils replantent une fois la pluie revenue ?
Parce que dans une crise écologique de cette ampleur, si la distribution de l'eau et des semences n'est pas planifiée et centralisée de manière drastique, le système s'effondre définitivement.
C'est la loi de survie.
Voilà. Si chacun cultive dans son coin sans coordination, après 7 années de sécheresse, les terres deviennent stériles et c'est l'extinction de masse. En achetant les terres, l'État s'octroie le contrôle total de l'appareil productif pour le relancer.
C'est une restructuration forcée.
Exactement. Par ailleurs, il faut regarder les chiffres. La politique de Joseph instaure un impôt d'un cinquième, soit 20% des récoltes.
20%, ça paraît beaucoup, non ?
Eh bien, comparé au taux de fermage pratiqué dans le Proche-Orient ancien, qui pouvait être bien plus prédateur, parfois 50% au plus, ces 20% étaient perçus comme un moyen très rationnel de garantir que l'État aura toujours des réserves pour les années difficiles, tout en laissant 80% aux paysans, pour leur propre survie et la relance locale.
Ah, vu sous cet angle, ça explique la réaction de la population qui est mentionnée juste après dans le texte.
Tu nous as sauvé la vie.
Waouh.
Dans un monde sans filet de sécurité sociale ni ONG internationale, l'asservissement consenti à un État redistributeur était de loin préférable à la mort par inanition.
Une forme de contrat social extrême.
C'est ça. Et un petit détail historique appuie d'ailleurs cette centralisation dans le texte. Il est précisé que seuls les prêtres égyptiens n'ont pas eu à vendre leurs terres, car Pharaon les nourrissait directement avec une pension.
Pourquoi c'est important de le noter ?
Le Dr Matthews fait un lien théologique très intéressant ici avec ce qui deviendra plus tard la loi d'Israël. Sous la loi mosaïque, la tribu religieuse des Lévites n'aura pas de territoire propre en héritage, mais dépendra des contributions du reste du peuple pour se consacrer entièrement à sa mission spirituelle.
Un écho subtil au fonctionnement de l'État hébreu futur, donc. Le sauvetage matériel de l'Égypte est donc acté, mais cette stabilité précaire nous amène doucement au crépuscule de notre récit. 17 années se sont écoulées.
Le temps passe vite.
Jacob a vécu en paix dans sa petite bulle de Goshen. Et il atteint l'âge canonique de 147 ans. Sentant la mort venir, il fait une requête qui en dit très long sur son état d'esprit intérieur.
Ouais, un refus catégorique.
Au lieu d'accepter d'être enterré avec les honneurs royaux dans la terre qu'il a sauvée et nourrie pendant près de 2 décennies, il convoque Joseph. Il lui fait prêter un serment solennel, la main sous la cuisse, exigeant de ne surtout pas reposer en Égypte, mais d'être ramené dans le tombeau familial de Machpéla, en terre de Canaan.
C'est une obsession pour lui.
Et après ce serment, le texte précise que Jacob s'incline pour adorer sur la tête de son lit. Ou, si l'on suit l'épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, qu'il adore en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton.
Cette image du bâton allait d'une puissance symbolique immense, je trouve. C'est l'attribut du pèlerin. Du voyageur, de celui qui n'est que de passage.
Il n'a jamais posé ses vraies valises.
C'est exactement ça. Ce geste prouve que la stratégie d'isolement de Goshen a parfaitement fonctionné. Malgré 17 ans de confort, d'abondance et de sécurité sous la protection écrasante du vice-roi, Jacob est resté intérieurement un étranger. Il n'a jamais considéré l'Égypte comme sa destination finale. Refuser d'y être enterré, c'est affirmer avec une foi inébranlable que les promesses de Dieu concernent bel et bien Canaan.
Et c'est justement autour de ces concepts de sauvetage et de promesses ultimes que le Dr Matthews introduit un outil d'analyse fondamental dans sa lecture, la typologie.
Oui, un outil classique, mais essentiel.
Pour que ce soit très clair pour tout le monde, comment on pourrait expliquer la typologie simplement, sans entrer dans un jargon pointu de faculté de théologie ?
Eh bien, imaginons un réalisateur de cinéma qui place un objet spécifique au tout début de son film, Sur le moment, dans la scène, cet objet sert l'action immédiate. Il a une utilité tout à fait concrète et terre-à-terre.
D'accord, un fusil de Tchekhov, en gros.
Voilà. Mais à la toute fin du film, on réalise que sa forme, sa couleur, sa fonction première annonçaient en réalité, dès le départ, le grand dénouement de l'histoire.
Une sorte de préfiguration.
Exactement. La typologie fonctionne ainsi, mais à l'échelle de l'histoire humaine et biblique. C'est une méthode de lecture où un événement historique, réel, ou un personnage du passé agit comme une maquette, une empreinte d'un événement futur bien plus vaste.
Donc, dans notre contexte, le docteur Matthews applique cette lentille de lecture au personnage de Joseph.
Tout à fait. Le texte de la Genèse décrit Joseph comme le sauveur historique et politique de sa famille et du monde connu face à la famine. C'est factuel. Mais le docteur Matthews, en utilisant la typologie, voit en Joseph le prototype parfait du sauveur avec un grand S.
Il élargit la focale.
Il trace une ligne droite entre l'action concrète de Joseph pour préserver la vie physique du peuple, la survie spécifique de la lignée de Judas, dont on parlait tout à l'heure, et, in fine, l'apparition de Jésus-Christ.
D'accord.
Notre source s'appuie notamment sur la première épître de Jean pour souligner ce titre de « sauveur du monde ». La structure narrative de la Genèse est ainsi lue, selon la tradition chrétienne orthodoxe, non pas seulement comme des annales familiales ou politiques, mais vraiment comme le prologue d'une rédemption spirituelle globale.
Et ce qui est fascinant dans cette exploration de la source, c'est de voir la virtuosité avec laquelle ces chapitres tissent plusieurs échelles ensemble. On passe sans cesse du micro au macro.
C'est vrai que les changements d'échelle donnent le vertige.
L'émotion brute d'un vieux père retrouvant son fils s'entremêle avec la création de la région ségrégée de Goshen, l'effondrement macroéconomique d'un empire géant et la trajectoire des promesses divines sur des millénaires.
C'est en fait un texte qui gère la complexité humaine et politique avec un réalisme très rare, tout en maintenant le cap de son message central sur la providence.
Absolument. Et c'est cette complexité même qui m'amène à une dernière réflexion, peut-être un peu provocatrice, pour prolonger tout ce qu'on vient de découvrir ensemble.
Je t'écoute.
Dans le récit que nous avons analysé, l'Égypte, et particulièrement cette fameuse terre isolée de Goshen, représente le refuge absolu. C'est le sanctuaire qui sauve la famille de la famine, un asile parfait offrant sécurité, nourriture et prospérité.
C'est leur bouée de sauvetage.
Oui, mais pour quiconque connaît la suite de l'histoire biblique, avec le livre de l'Exode, on sait que ce sanctuaire idyllique va lentement muter. Ce qui était un refuge va se refermer sur eux et devenir le lieu d'un esclavage brutal pendant 400 ans.
La prison parfaite.
Exactement. Et cela pose une question vertigineuse, je trouve. Combien de temps faut-il pour qu'un sanctuaire, une solution de crise qui a parfaitement fonctionné au départ, se transforme en un piège mortel?
Une très bonne question.
Et si on transpose cela à nos propres vies, comment réussir à discerner le moment exact où ce qui nous a sauvés hier commence, sans qu'on s'en rende compte, à nous asservir aujourd'hui?
On se quitte sur cette réflexion. À très vite pour une prochaine plongée dans nos sources.